qui nous rappelle que Dieu contrôle toutes choses. Ça rejoint un petit peu ce pourquoi nous l'avons loué aujourd'hui. Il contrôle tout, aussi bien dans les circonstances individuelles de chacun que dans les circonstances du monde, dans les circonstances des nations elles-mêmes. Nous allons commencer par demander l'aide du Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions pour ces moments de louange que tu nous as accordés. Oui, nous avons pu te louer parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui veut bien mettre ta puissance aussi pour nous venir en aide, pour venir en aide à notre faiblesse. Tout cela parce que maintenant, nous sommes tes enfants, nous t'appartenons, parce que tu nous as donné Jésus, celui qui a été crucifié en infirmité, en faiblesse, comme nous dit ta parole. Mais lui est le glorieux vainqueur. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il a vaincu Satan en adversaire. Et maintenant, il est là au ciel pour nous. Nous pouvons toujours nous appuyer sur lui et sur toute sa puissance. Te demandons de nous bénir encore pendant ces instants, de bénir cette précieuse parole que tu nous as conservée à travers les siècles. Veuille nous faire du bien au moyen de celle-ci. Et nous te demandons cela au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons donc lire dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2. Nous n'avons pas la projection. Oui, parce que donc, quand j'ai une prédication, je reprends mon ancienne version d'Arby. Merci. Livre du prophète Daniel au chapitre 2. Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar songea des songes et son esprit fut agité. Et son sommeil le quitta. Et le roi commanda d'appeler les devins et les enchanteurs et les magiciens et les chaldéens pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai songé un songe et mon esprit est agité pour connaître le songe. » Et les chaldéens dirent au roi en syriaque, « Au roi, vis à jamais, dis le songe à tes serviteurs. » Et nous en indiquerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose est par moi prononcée. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous indiquez le songe et son interprétation, vous recevrez de ma part des dons et des présents et de grands honneurs. » « Indiquez-moi donc le songe et son interprétation. » Passons au verset 10. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, « Il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande. » Donc indiquer à la fois le songe et ce qu'il signifie. « C'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé chose pareille d'aucun devin ou enchanteur aux Chaldéens. » Et la chose que le roi demande est difficile, et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère, et commanda de détruire tous les sages de Babylone. Et un décret fut promulgué, portant que les sages fussent tués. Et on chercha Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit avec prudence et avec sens à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioch, le grand officier du roi, « Pourquoi ce décret est-il si rigoureux de la part du roi ?» De par le roi, alors Arioch fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Alors, Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer de la part du Dieu des cieux ses compassions au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne fussent pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Alors, Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue, parce que tu m'as donné sagesse et puissance, et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Nous ayons fait connaître la chose que réclame le roi. C'est pourquoi Daniel entra auprès d'Arioc, que le roi avait établi pour détruire les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne détruis pas les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et j'indiquerai au roi l'interprétation. Alors Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé un homme des fils de la captivité de Juda qui fera connaître au roi l'interprétation. Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Belté-Shatsar, « Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit devant le roi et dit, « Le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures n'ont pu l'indiquer au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. » Au verset 31, « Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Cette statue était grande, et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main. Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et la broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il a mis entre tes mains. Il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et un autre d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, et il aura en lui de la dureté du fer selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il boira, détruira tous ses royaumes, mais lui, il subsistera toujours. Selon que tu as vu que de la montagne la pierre s'est détachée sans main et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain et son interprétation est sûre. Nous voilà donc à la cour de l'homme le plus puissant de l'époque, qui est à la tête d'un vaste empire qui s'étend depuis le golfe Persique à la Méditerranée, qui possède une gloire incomparable, qui détient tout pouvoir et le droit de vie et de mort sur tous ses sujets. C'est le grand roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Entre parenthèses, pourquoi cette différence de nom ? Ben, il paraît que l'araméen et l'hébreu, en tant que langue sémitique, utilise un système d'écriture consonantique où les voyelles ne sont pas systématiquement reprises, d'où les différences de traduction. Petite parenthèse. Alors, ce roi si puissant, il n'est pas en paix. Il est troublé, très troublé. Il n'arrive plus à trouver le sommeil. Que lui arrive-t-il ? Il a fait un songe. Oh bien, faire un songe, ce n'a quand même rien de bien extraordinaire. Mais ce songe revêt une grande importance pour le roi. D'une part, parce que les Chaldéens, les Babyloniens, accordaient une grande importance au songe. Ils leur accordaient une portée prophétique. Et d'autre part, parce que ce songe était différent de tous les autres. Il était vraiment impressionnant. Et aussi un peu captivant et réellement troublant. On sait que Dieu autrefois s'adressait parfois aux hommes au moyen de songes, de visions. Déjà, dans un temps très lointain, Élie le disait à Job au chapitre 33. Job 33, verset 14, « Car Dieu parle une fois et deux fois, et l'on n'y prend pas garde. » Dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit. Et les exemples dans la parole de Dieu sont nombreux. Nous voyons que Dieu parle aux hommes au moyen de songes, rien que dans le livre de la Genèse, on se souvient de ces nombreux cas. Au chapitre 20, Dieu s'adresse à Abimélec dans un songe parce qu'il veut prendre l'épouse d'Abraham, Sarah. Au chapitre 28, le fameux songe de Jacob où il voit les anges montant et descendant sur l'échelle. Au chapitre 31, à Laban pour lui dire « Ne fais pas de mal à Jacob qui s'était enfoui avec beaucoup de troupeaux et beaucoup de biens. » Au chapitre 37, Joseph, ces deux songes extraordinaires, les gerbes au milieu des champs, puis le songe avec le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Au chapitre 40, les chansons et le panetier du roi qui ont des songes. L'un sera exécuté et l'autre sera élevé en gloire. Au chapitre 41, le pharaon lui-même qui a un songe. Et grâce à ce songe, Joseph va être sorti de prison et élevé au plus haut degré de l'Égypte. Nebuchadnezzar lui sent bien que ce songe n'a rien d'anodin, qu'il est au contraire chargé d'une signification profonde. Alors il veut tout savoir. Il veut obtenir à la fois le détail du songe lui-même et ce qu'il signifie. Pour cela, rien de plus simple, vu qu'il est entouré de toute une élite de savants dans différentes catégories, tous très instruits dans la science des Chaldéens, des Babyloniens, qui étaient très développés pour l'époque. Il paraît que les Chaldéens étaient déjà très avancés en astronomie, en astrologie, en mathématiques. Ils faisaient déjà des équations du second du second degré, quelle chance pour eux d'avancer en médecine. Ils touchaient évidemment à l'occultisme et à la magie, bien sûr. Mais Nebuchadnezzar n'a donc qu'à faire appel à leur service. Ils sont là pour ça. Il les fait donc appeler et leur expose ses exigences. Il faut lui donner à la fois le détail du songe, le songe lui-même et ce qu'il signifie. Celui qui le fera sera richement récompensé. Mais tout refus ou incapacité entraînera la peine de mort et la destruction de la maison de celui qui est coupable d'un tel crime de lèse-majesté. Ne pas apporter au roi ce qu'il désire. Et devant l'aveu d'impuissance totale des sages de Babylone, la colère du roi se déchaîne et le massacre est ordonné. Daniel et ses compagnons font partie du groupe cible. Que vont-ils faire? Vont-ils se cacher? Vont-ils essayer de fuir et tenter d'échapper aux troupes du roi? Non, on voit que Daniel reste calme. Il ne panique pas. Tout jeune, déjà, au premier chapitre, il a montré qu'il était un homme de foi, qu'il se confiait pleinement en son Dieu, envers qui il a voulu rester fidèle envers et contre tout, refusant de se souiller avec la nourriture imposée par le roi lui-même, au chapitre premier. Et Dieu l'avait protégé, l'avait béni. Et lui avait même déjà donné, à la fin du chapitre premier, l'intelligence dans les songes et les visions. Mais ici, il fallait encore plus que cela. Il fallait non seulement savoir interpréter le songe, mais le roi demande qu'on lui rappelle le songe lui-même. Chose absolument impossible à l'homme. Ce que les savants de Babylone avaient reconnu devant le roi, c'est impossible. On voit que Daniel fait preuve d'un sang-froid et d'une sagesse remarquable. Alors qu'il est sur le point d'être arrêté et exécuté comme tous les autres, il interroge calmement l'officier du roi qui se présente à lui. Et puis il demande au roi un délai, et Dieu permet que le délai lui soit accordé. Mais devant l'urgence et la gravité de la situation, Daniel comprend qu'il faut obtenir sans tarder le secours de Dieu. Le besoin impérieux, absolu, d'avoir l'intervention divine en leur faveur. Mais Daniel connaît bien son Dieu. Il sait que Dieu est toujours là, avec lui. Et que ses yeux et son cœur sont toujours avec les bien-aimés, avec les fidèles. Il sait très bien, comme David l'avait écrit au psaume 34, Daniel sait très bien que, psaume 34, verset 15, les yeux de l'Éternel regardent vers les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. Verset 17, les justes crient et l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 29, il nous est dit aussi « L'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Nous avons affaire au Dieu qui écoute la prière. C'est d'ailleurs un genre de titre de Dieu, si nous voyons le psaume 65. Au verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Ô toi qui écoutes la prière. » Nous avons affaire à ce Dieu qui écoute. Daniel connaissait bien son Dieu. Et nous aussi, nous connaissons bien notre Dieu. Devant les besoins pressants, comme aussi pour n'importe quel besoin, nous pouvons toujours faire appel à Dieu. en ayant confiance justement à sa puissance, on l'a rappelé ce matin, à sa bonté et à sa sagesse. Nous avons la certitude que Dieu répondra toujours à nos prières, de la meilleure façon qui soit, et au moment adéquat qu'il a lui-même déterminé selon sa sagesse. Nous savons bien que Dieu répond parfois tout de suite, mais que Dieu parfois nous exerce à la patience, à la persévérance. Mais Dieu répond toujours. L'importance et l'efficacité de la prière. Mais ici, en plus, nous voyons que Daniel ne se contente pas de prier seul. Devant cette situation grave, il sent le besoin de mobiliser également ses amis croyants avec lui. L'importance et la puissance de la prière collective. La prière en commun amplifie formidablement l'appel au secours adressé à Dieu. Et bien plus encore maintenant que du temps de Daniel. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous avons en plus la merveilleuse promesse du Seigneur, Matthieu 18. Matthieu 18, au verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux, car c'est lié. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. La formidable promesse de la présence du Seigneur à un endroit bien précis, bien déterminé. Là où sont réunis, là où se sont déplacés quelques frères et sœurs pour prier, le Seigneur lui-même vient se joindre à eux. Et s'il faut monter des prières ferventes, sincères, d'un même cœur, Dieu répond, Dieu exauce. La prière en commun, qui est l'arme puissante dont on dispose l'Église dans tous ses combats divers et variés. C'est bien pour cela que, depuis toujours, le diable déploie tous ses efforts pour essayer d'empêcher les croyants de se réunir pour la prière. Le diable a bien trop peur de la puissance d'un tel rassemblement. Le diable n'a pas oublié toutes les interventions de Dieu en réponse à la prière en commun. Il n'a pas oublié Acte 4, par exemple, où nous voyons Pierre et Jean, après avoir guéri un homme boiteux. On se souvient de la fameuse parole de Pierre, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Suite à cela, Pierre et Jean se voient intimer l'ordre par le Sanhédrin de ne plus parler au nom de Jésus. Que font Pierre et Jean? Ils se rendent vers les leurs. Mais quelle belle expression que cela, les leurs. Ils ne sont pas seuls face au monde. Ils ne sont pas seuls face aux adversaires. Ils ne sont pas seuls face aux adversités, face aux problèmes, face aux difficultés. Ils ont une famille. Ils ont des personnes avec eux qui partagent la même foi, le même amour, la même vie divine, qui ont le même Sauveur, le même Seigneur. Et ils profitent de ces privilèges et ils se rendent vers les leurs. Que se passe-t-il ensuite? Nous allons reprendre dans Acte 4. Dans Acte 4, verset 23, « Et Et ayant été relâchés, ils, donc Pierre et Jean, vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu. Voilà, la prière en commun. Quel en est le résultat? On le voit un peu plus loin, au verset 31. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés, notons bien cela, le lieu où ils étaient assemblés, fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Voilà la réponse de Dieu, puissante, impressionnante, formidable. Et le diable n'oublie pas ce genre d'intervention de Dieu en réponse aux prières collectives. Mais pour les croyants, c'est un grand encouragement. C'est un très, très grand encouragement. Nous pensons bien sûr aussi à Acte 12, où nous voyons Pierre en prison qui dort paisiblement, lié de chaînes entre deux soldats. Mais l'assemblée est là. Elle fait d'instantes prières pour Pierre. De nouveau, d'instantes prières. Besoin ressenti. Urgent. Dieu va-t-il rester indifférent? Dieu va-t-il rester insensible? Jamais. Dieu répond. Dieu agit. Comment? Dieu agit comme celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une expression d'Éphésiens 3. Dieu agit comme ce Dieu qui agit et qui fait, qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et effectivement, Dieu agit. Il envoie un ange pour faire sortir Pierre de la prison. Et quand Pierre se rend au lieu où les croyants sont assemblés et priés, ils sont émerveillés. Dieu a fait bien plus que ce qu'ils osaient espérer. Ils sont tous surpris de voir Pierre. Voyez, il est déjà là à la porte. Ils ne pensent pas que c'est Pierre au début. Ils n'en reviennent pas. Dieu a répondu à leur prière bien au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Voilà la puissance de la prière en commun. Et ça nous encourage beaucoup justement à garder ce bonheur, cette joie d'avoir encore la liberté, le privilège de pouvoir nous réunir pour prier. C'est aussi l'exemple que notre regrettée sœur Hélène nous a montré. J'étais toujours impressionné comme elle avait ce bonheur de venir le dimanche bien sûr, mais le mardi, c'était le soir. Elle avait ce bonheur de retrouver sa famille de la foi et de se joindre aux prières autour du Seigneur. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais enfin, Hélène, tu vas retourner toute seule, il fait déjà sombre dehors. Ah, oh, mais non, mais ça valait tellement la peine, et le Seigneur me gardera. Ah, quel beau souvenir elle a laissé. Et nous avons toujours, nous, ce privilège. Revenons à Daniel et ses compagnons. Une grave menace plane sur eux. Le danger est là, réel, tout proche. Mais Daniel sait comment se sortir de cette situation périlleuse. La solution infaillible, justement, il prie Dieu avec ses compagnons. Et Dieu ne tarde pas à répondre. Comme nous l'avons dit, l'urgence de la situation nécessitait une réponse rapide de Dieu, et Dieu répond présent. Se souvient du témoignage remarquable de Génia concernant André. La réponse immédiate de Dieu pour le tirer d'embarras quand il était à l'hôpital. Voilà. L'urgence de la situation réclamait une réponse rapide de Dieu et Dieu était bien là. Daniel reçoit la vision du songe et son explication pendant la nuit. Alors le premier réflexe de Daniel, Mais c'est la reconnaissance, c'est la louange envers ce Dieu qui est un secours dans la détresse, toujours facile à trouver, c'est le premier verset du psaume 46. Dieu est notre secours. Dieu est notre refuge, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Il pourrait s'écrier comme David dans ce magnifique psaume 145. On sait qu'il y a une multitude de perles dans la parole et notamment dans les psaumes, mais le psaume 145 est aussi une de ces perles. Et au psaume 145, au verset 3, David écrit « L'Éternel est grand. L'Éternel est grand et fort digne de louange. » Et sa grandeur est insondable. Daniel ouvre son cœur en reconnaissance, en louange. Et nous aussi, ayons toujours ce cœur porté vers la reconnaissance, la louange envers notre Dieu, qui est si grand et si fidèle. Voyons ce que dit Daniel alors maintenant. C'est toujours une louange qui m'a toujours beaucoup plu depuis mon plus jeune âge. Daniel répondit et dit au verset 20 de Daniel 2, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. » Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Daniel vient d'avoir la vision de la succession des empires. Qui, aussi grand, aussi puissant soit-il, finissent toujours un jour par disparaître pour faire place à un autre. Sur la terre, tout est mouvant, tout est illusoire, tout passe. Mais Dieu, lui, reste le même, au-dessus de tout, qui contrôle absolument tout. Avant toute chose, après toute chose, au-dessus de toute chose, Dieu est là. Dieu reste le même. Et Dieu se révèle. Alors, bien en dehors et au-delà de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui dégrade, de tout ce qui passe sur la terre, bénissons le nom de Dieu d'éternité en éternité. C'est à lui que sont la sagesse et la puissance. Non seulement Dieu possède cette sagesse pour concevoir, élaborer le cours de l'histoire de l'humanité, l'enchaînement des événements, mais il a la puissance aussi de le mettre en œuvre, de le mettre à exécution. Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Alors, au verset 21, c'est lui qui change les temps et les saisons. Non seulement c'est Dieu, bien entendu, qui a déterminé, qui a fixé le rythme, le cycle des jours, des nuits, des saisons, mais le sens ici va encore plus loin. C'est Dieu lui-même qui détermine la durée et le caractère de chaque forme de domination dans le monde, de chaque mode de gouvernance. Ça peut être une république, ça peut devenir un régime totalitaire, ça peut rester un royaume, mais c'est chaque fois Dieu qui détermine tout ça. D'ailleurs, le verset, la partie suivante de la phrase, c'est « Il dépose et établit les rois ». Là aussi, aussi puissants soient-ils, les dirigeants de ce monde ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. Certes, Dieu leur accorde une grande liberté d'action, comme à chaque être humain, et ils devront rendre un jour compte de leurs actes. Mais ils ne sont là que par la volonté de Dieu. Premier verset de Romains 13. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car... Il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. C'est clair. Il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et Jésus lui-même le disait à Pilate dans Jean 19, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors, il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Mais qui sont alors ces sages à qui Dieu donne de la sagesse et ces intelligents à qui Dieu donne de l'intelligence? Eh bien, tout simplement, ce sont ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Il y a aussi de multiples versets dans la parole qui nous rappellent. Nous lirons simplement Proverbe 9, au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est un verset qu'on retrouve beaucoup de fois, tellement il est important. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du saint est l'intelligence. Y a-t-il plus bel exemple que celui de Daniel ? Il avait la crainte de l'Éternel, il aimait son Dieu, il était fidèle absolument à son Dieu, et Dieu l'a rendu 10 fois plus sage et intelligent que tous les savants de Babylone, que nous voyons à la fin du chapitre 1er. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence aux intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont la crainte de son nom. C'est lui qui révèle les choses profondes, secrètes. La lumière demeure auprès de lui. Rien n'est caché aux yeux de Dieu, il connaît absolument tout. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire, à la fin du chapitre 4 des Hébreux. Une belle prière que fait monter là Daniel. Dieu a donc communiqué à Daniel le fameux secret du songe du roi et son interprétation. Au moyen de cette grande statue composée de la tête aux pieds par des métaux différents, eh bien Dieu déploie sous nos yeux la carte du monde sur plus de 26 siècles. La succession des empires qui vont dominer sur le monde pendant jusqu'au retour de Christ. N'allons pas trop évidemment nous éterniser là-dessus. Daniel explique au roi qu'il y aura une succession de royaumes, d'empires, dont le faste, la splendeur iront en diminuant. On part de la tête en or pur pour terminer aux pieds en partie de fer et d'argile. La tête en or pur, comme nous l'avons lu, c'est donc le grand roi Nebuchadnezzar lui-même et ses descendants, 3 générations, ainsi que l'empire babylonien sur lequel il règne. C'est une monarchie absolue. Et c'est un peuple dont la culture est très brillante. On connaît tous les jardins suspendus de Babylone, les fameux ziggourats, ces monuments religieux à plusieurs degrés. On a déjà rappelé qu'ils étaient très avancés dans toutes les sciences, astronomie, mathématiques, médecine, architecture. Et Nebuchadnezzar est vu comme ce roi glorieux, détenant un pouvoir absolu sur un empire glorieux, somptueux. Le livre de Daniel identifie également les deux empires suivants. Au chapitre 5, c'est le fameux chapitre où nous voyons Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui soudain voit une main écrire sur le mur sa propre condamnation et celle de son royaume. Compter, peser et diviser. Il avait été pesé à la balance divine et avait été trouvé manquant de poids. C'est un fait pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains manquent de poids devant Dieu. D'autres passages nous disent qu'ils montent plus légers que l'air. Mais quand ils viennent au Seigneur, alors tout change. Ils sont revêtus de toutes les gloires, de toutes les perfections du Seigneur Jésus lui-même. Quelle différence! Eh bien, nous voyons dans le dernier verset de ce chapitre 5 que l'empire chaldéen fait place à celui des Mèdes et des Perses. C'est donc la poitrine en argent. C'est un royaume, un empire qui était inférieur en gloire à celui de Babylone. C'était un empire. Le roi lui-même détenait beaucoup moins de pouvoir. Le roi était soumis à la loi des Mèdes et des Perses, qui ne pouvait en aucun cas être abrogée, même par le roi lui-même. C'est pour cela que quelques années plus tard, enfin beaucoup d'années plus tard, il ne pourra même pas empêcher Daniel de se trouver dans la fosse aux lions. Le roi aurait bien voulu empêcher Daniel de se retrouver dans la fosse aux lions, mais il ne pouvait pas parce qu'il était lié par la loi des Mèdes et des Perses. Nebuchadnezzar, lui, n'avait pas ces restrictions-là. Il décide de tout. Et donc, c'était un empire beaucoup plus administratif et beaucoup moins rayonnant dans le domaine des arts, de la culture, du génie civil. Le chapitre 8 de Daniel, lui, nous identifie clairement le troisième empire. Nous voyons le royaume de Javan, c'est-à-dire la Grèce, sous la figure d'un bouc redoutable qui anéantit le royaume des Mèdes et des Perses, qui est vu sur la figure d'un bélier. Le royaume grec d'Alexandre le Grand. Le ventre et les cuisses en airain, c'est-à-dire en bronze. On se souvient à l'école qu'Alexandre le Grand, en une dizaine d'années, a conquis un immense territoire depuis la Grèce jusqu'en Inde. Il a bâti des dizaines de villes, dont la fameuse Alexandrie en Égypte, où justement la langue, l'art, les institutions grecques se sont implantées. La langue grecque est devenue la langue commune dans tout ce vaste territoire, facilitant les échanges commerciaux, culturels, scientifiques. Mais ce grand conquérant est mort à l'âge de 32 ans et son immense empire a été divisé entre ses quatre généraux. Le quatrième et dernier empire est bien entendu l'Empire romain. Celui-là même qui était sur scène lorsque le Fils de Dieu est venu sur la terre pour sauver l'homme perdu. Le premier verset de Luc 2 nous parle bien d'un décret de César Auguste ordonnant un recensement sur la terre habitée tout entière. L'Empire romain, les jambes d'airain et les pieds en partie de fer et d'argile. Un empire redoutable, d'une puissance extraordinaire qui écrase tout sur son passage. Mais la grande particularité de ce quatrième empire, c'est qu'il comporte deux phases bien distinctes, séparées par un long espace de temps. La première phase s'est terminée depuis bien longtemps. C'est un empire romain historique, tel qu'on l'a appris à l'école. Mais il va bientôt se reconstituer. Et qu'y a-t-il entre les deux phases de cet empire ? Eh bien, c'est la période de la grâce. C'est le moment où nous vivons. C'est la grande parenthèse de l'Église qui va bientôt se refermer. Nous avançons à grands pas vers le dénouement final. L'Empire romain va se reconstituer sous sa dernière forme. Nous approchons des derniers temps de cette grande statue vue par Nebuchadnezzar. Que reste-t-il à accomplir ? Juste l'épaisseur des orteils. C'est tout ce qui reste à accomplir. Les 10 orteils, en partie de fer et d'argile, un mélange de force et de faiblesse. Ne voit-on pas d'ailleurs déjà quelque chose de cela dans la difficulté de l'Europe à prendre quelques décisions ? Il est fait allusion donc à 10 orteils. Le chapitre 7 de Daniel nous parle de 10 cornes concernant ce même futur empire. Apocalypse 13 et 17 nous parle également de 10 cornes. Il y a un lien évident entre ces passages qui font certainement allusion à 10 puissances ou divisions politiques qui seront partie constituante de cet empire romain de la fin. Ce serait bien peut-être un jour que Benoît Bédé nous explique un petit peu ces passages compliqués de 10. Mais voilà, nous approchons de ces derniers temps. Le songe de Nebuchadnezzar se termine par une pierre détachée sans l'aide de coups de main qui frappe la statue dans les pieds, la détruit complètement et fait place à une grande montagne. figure du retour en gloire de Jésus-Christ pour instaurer son règne de justice et de paix. Il y a beaucoup de... Le psaume 72 nous en parle. Il dit qu'il y aura abondance de paix, abondance de froment, tout ce dont l'homme a besoin. Et il y a beaucoup de passages de la parole qui nous parlent de ces temps extrêmement heureux où Christ régnera et où nous serons associés avec lui dans son règne. L'apôtre Paul l'écrit dans sa deuxième épître à Timothée, « Si nous souffrons pour Christ, nous régnerons aussi avec lui. » L'Église sera associée avec Christ dans son règne. Et on termine par la déclaration de Daniel. À la moitié du verset 45, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain et son interprétation est sûre. Bien entendu que l'interprétation est sûre, vu que c'est Dieu lui-même qui l'a révélé. Le Dieu qui contrôle tout. Le Dieu qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, aussi bien les circonstances individuelles de chacun que les circonstances des nations elles-mêmes dans le monde entier. Et c'est très encourageant pour nous de nous rappeler que ce Dieu tout-puissant, qui dirige toutes choses, il contrôle tout, que ce soit dans le monde que dans nos vies. Et ainsi, nous pouvons, en toute confiance, dire à nouveau comme David, évidemment, il a rédigé la plupart des psaumes, dans le psaume 31, psaume 31, verset 15, « Mes temps sont en ta main. » C'est très réconfortant pour nous. « Mes temps sont en ta main » ou « Mes destinées sont en ta main ». Nous ne savons jamais de quoi demain sera fait. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur le sait, et que le Seigneur dirigera tout, et que le Seigneur contrôle tout, et que nous pouvons toujours compter sur lui. Nous pouvons toujours le prier, qu'il sera toujours là pour nous. Alors, confions-nous pleinement au Seigneur, sachant qu'il est au contrôle de tout. Que le Seigneur bénisse sa parole.